Il est 13h. C'est donc l'heure de votre journal. Anogé.
Bonjour à toutes et à tous. Son sourire malicieux et son habit pourpre d'archevêque ont marqué des générations de militants de la liberté et de la lutte contre le racisme bien au-delà de son pays, l'Afrique du Sud. Desmond Tutu est mort à 90 ans, lui qui était l'une des plus grandes figures de la lutte contre l'apartheid.
We promise God that we are going to follow the example of Nelson Mandela.
En 2013, Desmond Tutu promettait à Dieu de suivre l'exemple de Nelson Mandela au moment de sa mort. Aujourd'hui, c'est toute sa nation arc-en-ciel qui le pleure, lui. Faut-il repousser la rentrée scolaire face à l'épidémie de Covid-19 qui s'emballe en France? C'est ce que demande une cinquantaine de soignants au gouvernement à la veille d'un nouveau conseil de défense sanitaire. Et dans les hôpitaux, quel impact redouté? Nous poserons la question à l'invité du 13h, le professeur Philippe Amouyel au CHU de Lille. L'épidémie de Covid qui gâche sérieusement la fête que se promettait le rugby français avec son Boxing Day, une journée de top 14 juste après Noël. L'affiche de ce soir, Stade Toulousain contre Stade Français, est à son tour annulée. La météo de Jean-Pierre Hameau à la fin de ce journal, encore de la pluie. Voilà le sommaire, bienvenue.
France Inter.
Il était l'une des dernières grandes figures de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. 18 ans après Nelson Mandela, Desmond Tutu est mort à 90 ans après des années de lutte contre une santé de plus en plus fragile. L'archevêque Desmond Tutu, la conscience de l'Afrique du Sud, avait reçu le prix Nobel de la paix en 1984, 9 ans avant Nelson Mandela et Philippe de Klerk, le président sud-africain. Au-delà de son visage toujours souriant, de sa force, c'est son combat sans fin contre l'apartheid, pour la réconciliation qui nous reste. Bonjour Timour Özturk.
Bonjour à tous.
Le combat, c'était la vie de Desmond Tutu.
Il était d'abord un activiste, un meneur de foule, comme lors de funérailles de militants tués par le régime de Pretoria en 93.
Now, I want to ask you.
Êtes-vous attaché à une liberté totale, quel qu'en soit le prix, demande Desmond Tutu. Il ne doutait pas de la justesse de sa cause et avait toujours cru en son futur triomphe. Lorsque les gens décident d'être libres, chers amis, rien, absolument rien, ne va les empêcher d'être libres, prévenait l'archevêque anglican. Après la fin de la ségrégation, il ne s'arrête pas, dénonçant sans relâche l'homophobie.
I cannot worship.
Je ne vénérerai pas un dieu homophobe. Desmond Tutu était très clair à ce sujet. Il savait aussi s'en prendre à l'ANC, le parti de son ami Nelson Mandela. En 2011, il critique très sévèrement le président Jacob Zuma.
This government, our government, is worse than...
Ce gouvernement, notre gouvernement, est pire que celui de l'apartheid, se lamentait l'archevêque, qui durant toute une vie de lutte n'a jamais renié ses idéaux.
Merci Timour Özturk. En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson se dit profondément attristé par la mort de Desmond Tutu. Il salue son leadership intellectuel et sa bonne humeur irrépressible. Dans son pays en Afrique du Sud, on pleure Claire Bargelès, l'un des derniers grands représentants des combattants pour la liberté.
Oui, à commencer par le président Cyril Ramaphosa qui a annoncé sa mort ce matin dans un communiqué. Le chef de l'État note qu'il s'agit d'un nouveau deuil pour la nation sud-africaine qui doit dire adieu à toute une génération qui s'était battue pour que le pays soit libre. Cyril Ramaphosa salue la mémoire d'un homme d'une extrême intelligence, plein de compassion pour ceux qui ont été opprimés ou souffrent d'injustice. La Fondation Nelson Mandela regrette également une perte incommensurable et la disparition d'un être humain extraordinaire, rappelant l'amitié qui liait les deux combattants pour la liberté. Desmond Tutu était également devenu le premier archevêque noir de la ville du Cap, un grand symbole dans le régime de l'apartheid, et c'est donc avec une grande tristesse que l'archevêque actuel salue sa force morale et son courage moral. Des hommages devraient continuer à être adressés toute la journée, tant la personnalité hors norme de Desmond Tutu rayonnait à travers le pays, mais aussi à l'international.
Claire Bargelès, correspondante de RFI en Afrique du Sud. En Afghanistan, les talibans, par la voix du ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice, c'est bien son nom, annonce que désormais les femmes qui souhaitent voyager à plus de 70 km devront être accompagnées par un homme de leur famille. Depuis leur arrivée au pouvoir en août, les restrictions imposées aux femmes s'enchaînent. Après Noël, il y a ceux qui revendent leurs cadeaux. C'est une tendance qui s'amplifie, paraît-il. Mais si on retenait ceux, surtout, qui dorment avec, qui vivent avec, tellement le Père Noël a vu juste. Tiens, Bastien, par exemple, 6 ans, qui a pris avec lui ses nouveaux doudous pour aller courir sur la plage d'Urville-Naqueville dans le Cotentin et qu'a croisé Raphaël Aubry.
3 doudous. Le premier, c'est un bébé marsupilami. Le deuxième, c'est mon doudou préféré. C'est doudou dur. Et le troisième, c'est un panda.
Pourquoi tu les as emmenés avec toi, là, sur la plage?
Bah, parce que j'avais envie.
T'as eu quoi d'autre comme cadeau?
Un château Lego avec un dragon et c'est fini. C'est un Lego et il est de 9 ans et plus. J'ai commencé à le construire hier soir et j'ai fini aujourd'hui. Et en plus, hier soir, j'ai mangé une pizza.
C'est un repas de Noël, une pizza?
Bof, je sais pas.
Donc on dit quoi, vivement l'année prochaine pour les prochains cadeaux?
Ouais.
Mais oui, une pizza, c'est bien aussi à Noël. Reportage de Raphaël Aubry de France Bleu Cotentin. Mais la réalité quand même de ce Noël 2021, c'est qu'il n'a pas été tout à fait comme les autres. Une nouvelle fois, tout comme le réveillon du Nouvel An sera encore compliqué par l'épidémie de Covid-19. Plus de 100 000 nouveaux cas en 24 heures. Encore hier, des dizaines de personnes contaminées, donc isolées pour les fêtes, des retrouvailles qu'il faut annuler et surtout des perspectives inquiétantes. Demain, Emmanuel Macron préside un conseil de défense sanitaire et ce matin, dans le journal du dimanche, 50 médecins, pédiatres et épidémiologistes signent une tribune pour demander plus de mesures afin de protéger les enfants du Covid, quitte à repousser la rentrée. C'est chez eux, les enfants, que le virus circule beaucoup. Une tribune qui est destinée donc à alerter, pas à faire peur, assure Jérôme Marty, médecin généraliste et président de l'Union française pour une médecine libre, qui l'a signée.
Ce que l'on dit, c'est qu'il faut que l'on protège les enfants pour que l'on protège l'école, que l'on diminue la circulation virale, que l'on mette tout en œuvre. Or, force est de constater que tout n'a pas été mis en œuvre. On voit bien que malgré le fait que des protocoles ont été mis en place, ils ne sont pas au niveau, on est loin du compte, puisqu'on a eu des taux d'incidence jusqu'à 2000 dans certaines écoles, avec la mise en place de graduations qui ne correspondaient pas du tout à l'importance de la circulation virale. Et c'est pour ça que l'on demande au ministère de la Santé, en quelque sorte, de prendre la main sur le ministère de l'Éducation, qui a été très carentiel en termes de protection des enfants depuis maintenant quasi 2 ans.
Jérôme Marty au micro de Benjamin Fontaine. Alors cette vague de l'épidémie, jusqu'où va-t-elle aller? Quand va-t-elle s'arrêter? On en parle avec notre invité du 13h, le professeur Philippe Amouyel, qui dirige le service de santé publique au CHU de Lille. Bonjour.
Bonjour.
Le cap des 100 000 nouveaux cas en 24 heures a donc été franchi hier. Est-ce que cette épidémie est en train de nous échapper?
Alors, je ne sais pas si elle nous échappe, mais je pense qu'elle nous surprend. C'est-à-dire que cette poussée massive du nombre des cas, probablement liée au nouveau variant, le fameux variant Omicron, est en train de dépasser tout ce qu'on avait pu mesurer, peut-être à l'exception de la première vague, période à laquelle on n'avait pas de tests pour identifier les sujets positifs.
Alors, il y a effectivement beaucoup de tests, ce qui effectivement explique en partie ce nombre important de cas, mais pas seulement. Il faut se projeter maintenant, parce que c'est 100 000 aujourd'hui, ce sera peut-être encore plus la semaine prochaine. C'est ce qu'avait l'air de dire le ministre de la Santé un petit peu avant Noël.
Oui, parce qu'en fait, ce variant est extrêmement contagieux. 40 à 60% plus contagieux que le variant Delta, qui est en train probablement de terminer sa course, et qu'avec 100 000 personnes contaminées, si chaque personne se met à contaminer 4 à 5 autres personnes, l'amplification de l'épidémie risque d'être majeure dans les jours qui viennent.
Alors, la question, c'est quel va être l'impact, évidemment, sur les hôpitaux? En fait, c'est finalement, la donnée qu'il faut regarder de près, le nombre de contaminations. Est-ce que cela doit nous obliger à anticiper des hospitalisations massives? C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui.
Oui, parce qu'en effet, aujourd'hui, contrairement à l'année passée, une bonne partie de la population française est vaccinée. Les Français ont été sérieux dans ce domaine, sont en train de faire leur troisième dose. Donc finalement, les complications vont diminuer. Et peut-être que comme le Royaume-Uni ou le Danemark, on n'aura pas la poussée massive qu'on a observée lors des premières vagues. En revanche, le fait du nombre extrêmement important des patients et des personnes contaminées pourrait quand même venir submerger. Et ça, il faut l'anticiper.
Et vous l'anticipez-vous déjà dans votre hôpital, le CHU de Lille? Comment vous préparez-vous?
Alors en fait, au CHU de Lille, et comme dans les autres hôpitaux de France, l'idée c'est d'essayer d'anticiper en faisant la mise en place d'un plan blanc, c'est-à-dire que les gens sont prêts à être mobilisés, qu'on prépare les lits, qu'on déprogramme en partie certaines opérations, alors pas autant que lors des précédentes vagues, environ 30%, pour être prêt si jamais le nombre des cas à l'hôpital explosait, et c'est ça en fait le bon indicateur actuellement, on puisse répondre à la demande sans déséquilibrer le système.
Avec quand même une inquiétude qui va concerner l'hôpital, mais qui va concerner la société dans son entier, et peut-être qu'il faut se poser des questions sur la stratégie, mais on va en reparler. Une inquiétude pour l'hôpital, c'est que les soignants, on est déjà en pénurie de soignants, pourraient manquer parce qu'ils seraient cas contact, parce qu'ils auraient le Covid, parce qu'ils devraient garder les enfants éventuellement.
Et oui, parce qu'avec 100 000 contaminations par jour, on va avoir des cas contacts qui, selon les protocoles, vont devoir s'isoler. 4 cas contacts par personne, ça fait 400 000 personnes isolées chaque jour, près de 2 millions de personnes par semaine. Là-dedans, il y aura des médecins, il y aura des soignants, il y aura des personnes qui travaillent dans les transports, dans l'énergie, donc qui pourraient entraîner un déséquilibre de l'organisation.
Et justement, demain, le président Emmanuel Macron préside un nouveau conseil de défense sanitaire. Qu'attendez-vous, vous? Est-ce qu'il faut, d'une certaine façon, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais laisser filer l'épidémie en assouplissant les règles d'isolement, justement, pour, par exemple, les personnes vaccinées?
Alors, je crois qu'il ne faut pas laisser filer l'épidémie. Il faut essayer peut-être d'alléger certains des protocoles de confinement, en particulier parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes cas contact, que vous soyez vacciné ou non, quand c'est de l'Omicron, vous êtes obligé de vous isoler. Donc peut-être alléger de ce côté-là, ne pas l'alléger chez tout le monde, chez les moins de 65 ans, chez les personnes sans comorbidité, dans des professions qui sont particulièrement exposées, comme les soignants. Ça pourrait être une solution.
Et repousser la rentrée, Philippe Amouyel, professeur au CHU de Lille. Quel est votre avis là-dessus? On a entendu des soignants tout à l'heure, Jérôme Marty, qui est médecin généraliste et qui a signé cette tribune publiée ce matin dans le Journal du Dimanche pour demander qu'on repousse effectivement la rentrée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Alors, on a toujours pensé qu'en fait, les enfants se contaminaient moins, transmettaient moins, avaient moins de formes graves. Or, on se rend compte avec le temps et la progression des variants que ce n'est pas le cas. Et avec ce variant Omicron qui se transmet à très grande vitesse, à la sortie des vacances scolaires, à l'entrée des vacances scolaires, on était quasiment à 1%, c'est-à-dire une chance sur 20 pour un enfant dans une classe de 25 de se contaminer dans la journée. Donc l'augmentation du nombre risque d'augmenter le nombre des cas graves, il y en a quand même un certain nombre, et à ce moment-là, il faut qu'on prenne des mesures, celles de mes collègues qui l'ont inscrite dans cette tribune, comme l'aération, mais aussi il faut penser peut-être à reculer la rentrée scolaire, le temps de voir comment évolue cette vague.
Oui, vous êtes plutôt favorable à cette option, quitte face à cette épidémie qui nous échappe un peu. Faire repousser la rentrée, ça peut vraiment être une des solutions.
Oui, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le chiffre chez les 6-12 ans, par exemple, est en train de diminuer. Les chiffres sont en train de diminuer grâce aux vacances scolaires. Les prolonger, le temps qu'on voit comment évolue l'épidémie. Hein, vous savez, aujourd'hui, on est à plus de 110 000. Le retour à l'école risque, là encore, d'amplifier les choses. Et à ce moment-là, libérer les enfants dès que c'est possible et qu'on voit l'épidémie évoluer.
Merci beaucoup, Philippe Amouyel, professeur du service santé publique au CHU de Lille. Merci à
Merci.
Vous. Le gouvernement continue évidemment d'insister sur la vaccination. Demain, le Conseil des ministres validera la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, c'est-à-dire un vaccin obligatoire et plus un simple test pour accéder à certains lieux. Le débat au Parlement débutera mercredi. Et visiblement, même le jour de Noël, le rythme ne s'est pas complètement ralenti. Dans la métropole de Rouen, par exemple, en Seine-Maritime, le centre de vaccination de Grand-Quevilly ouvrait hier, jour de Noël, 25 décembre, et tous les rendez-vous ont trouvé preneur. Reportage de Manon Lombard-Brunel.
Préparez votre épaule gauche, s'il vous plaît.
Des vaccinations qui s'enchaînent même le jour de Noël.
Détendez votre bras, allez-y. Hop, vous respirez, voilà.
Juliette vient tout juste de faire sa dose de rappel.
J'avais un autre rendez-vous plus tard et puis dans la panique, j'ai préféré me faire vacciner avant. J'ai envie de fêter le nouvel an avec des copains, donc je préférais le faire maintenant. Voilà, il y avait une disponibilité, donc je l'ai faite. Même si c'est Noël, c'est pas grave.
Juste à côté, Maxime attend lui patiemment les 15 minutes réglementaires après la vaccination. Et pour lui, se faire vacciner le 25 décembre, c'est une question de praticité.
C'est vrai que ça m'a arrangé de venir le 25 parce qu'avec mes horaires de travail, ça m'a permis de faire ma troisième dose et profiter, quoi. J'ai choisi le jour férié pour me faire vacciner, quoi. Voilà, on perd une demi-heure avec la famille et puis au moins on est tranquille, quoi.
Un créneau de vaccination qui rencontre donc son public, c'est ce que constate Annie-Claude Bèche. Elle est médecin, sapeur-pompier volontaire au centre de vaccination.
Les gens ont fini leur festivité alimentaire et donc viennent se faire vacciner sans problème, sans difficulté. Il y avait 150 rendez-vous ouverts et ils ont tous été pourvus. Des premières doses, des doses de rappel. C'est varié.
Et puisque tous les rendez-vous ont trouvé preneur à Noël, l'expérience sera renouvelée dans tout juste une semaine, cette fois pour le samedi du Nouvel An.
Manon Lombard-Brunel de France Bleu Normandie. En Chine, la ville de Xi'an, où 13 millions d'habitants sont confinés depuis plusieurs jours déjà, annonce mener une opération de désinfection totale et durcir les restrictions, alors que la Chine dit enregistrer un nombre record de contaminations au Covid-19, nombre record, c'est-à-dire 206 nouveaux cas par jour. C'est très peu, mais c'est un pays, la Chine, qui a vu naître l'épidémie et qui vise le zéro Covid. En France, 60 pompiers sont mobilisés depuis ce matin dans les Bouches-du-Rhône, sur l'étang de Berre, contre un incendie de type industriel dans un centre de récupération de déchets. À quelques jours de l'arrivée de la France et donc d'Emmanuel Macron à la tête du Conseil de l'Union européenne, ce sondage sur le sentiment des Français vis-à-vis de l'Europe, sondage mené par l'Institut IFOP pour le groupe de réflexion européen Europa Nova. On les découvre, les Français, sans être vraiment surpris, moins fiers d'être européens que les Allemands ou les Italiens. 68% répondent qu'ils le sont. Chez les Allemands, c'est 77%. Alors pourquoi cette exception française ? Guillaume Clossa est le président d'Europa Nova.
D'abord, il y a un système présidentiel français qui polarise l'opinion. Si le président s'affiche comme pro-européen, que vous êtes contre le président, vous êtes contre l'Europe. Et ça, c'est vrai dans aucun autre pays européen. La surpersonnalisation du sujet européen en France sur la personne du président de la République, qui est une exception européenne unique, rend le sujet européen clivant et en fait réduit la capacité de l'entraînement et d'influence de la France en Europe, en même temps qu'elle divise de manière massive la société, ce qui n'est pas bon. Le deuxième élément, c'est la forte focalisation du débat public sur le sujet migratoire, qui est un sujet qui n'est pas résolu en France, alors que paradoxalement en Italie comme en Allemagne, le sujet migratoire est beaucoup plus compliqué, mais il est beaucoup moins polarisant. Et troisième élément, même les pro-européens en France ont un discours négatif sur l'Europe, en incitant tout le temps, en appelant une refondation du projet européen. C'est le cas nulle part en Europe. Par exemple, les Français ont longtemps insisté sur la nécessité de desserrer les critères de Maastricht, d'avoir une dette commune, d'avoir une banque centrale qui soutienne l'emploi. Aujourd'hui, c'est massivement le cas. Et pourtant, c'est pas valorisé par l'opinion publique.
Un propos recueilli par Louise Baudet dans ce sondage, on demande aux Français quelle Europe ils veulent. Des États plus souverains ou bien plus d'Europe. Un tiers ne sait pas répondre à cette question. 40% des personnes interrogées veulent plus de souveraineté de la France. Et repeupler un village qui se meurt, touché par le départ de ses habitants pour la ville. C'est un casse-tête pour beaucoup de familles rurales en France, mais ça l'est un peu partout en fait en Europe. Et la pandémie, le désir de retour aux sources, à la nature, ne suffit pas toujours à inverser ce phénomène de fond. En Suisse, le village d'Albinen, avec ses 243 habitants, est allé très loin pour lutter en proposant de l'argent aux nouveaux habitants. Le reportage de Jérémy Lanche.
Si Jacques Chirac avait un jour visité Albinen, il aurait sans doute lâché un « c'est loin mais c'est beau ». Car la tirade passée à la postérité de l'ancien président semble avoir été taillée pour ce superbe village du Valais suisse. Il est perché à 1300 mètres d'altitude face au soleil qui irradie la commune quasiment toute l'année. Un paysage de carte postale qui ne suffit plus à retenir ses habitants. Beat Yost est le maire d'Albinen.
On n'a presque pas d'enfants, hein. On n'a pas d'école et on a dit là, si ça change pas, on n'a pas de futur.
En 2017, la commune décide donc d'accorder 25 000 francs suisses, environ 24 000 euros à tout nouvel habitant. à condition de rester albinène pendant au moins 10 ans et d'acheter ou de rénover une maison. Des conditions pas toujours comprises par les candidats qui sont arrivés du monde entier.
On a eu 12 000 demandes sur email, WhatsApp, téléphone. Il y a eu des gens qui sont venus 800 km d'Italie Sud avec les valises. Ils ont demandé au magasin de la commune là-haut où est l'argent ? Où est l'appartement ? C'était fou, hein ?
Passé l'effervescence et les désillusions des premiers mois, la mesure a tout de même porté ses fruits. Albinène compte depuis 38 nouveaux habitants, dont 12 enfants, et surtout 4 naissances en une seule année. Ce n'était plus arrivé depuis 20 ans dans le village. À Albinène, Jérémy Lange, France Inter.
Le rugby français n'est plus en fête aujourd'hui. Elle est à chaque heure encore plus ternie par le Covid-19. Il ne reste plus que 3 matchs programmés à ce stade pour le Boxing Day, cette tradition copiée sur le football anglais. L'affiche de cette 13e journée du Top 14, programmée juste après Noël, justement pour faire la fête, Stade Toulouse, un stade français, est à son tour reporté en raison de la situation sanitaire de l'effectif parisien, dit la Ligue de rugby. Résultat, il n'y a plus qu'un match aujourd'hui, Perpignan-Castres. Perpignan où le talonneur Lucas Vellart est ravi vraiment de jouer en ce 26 décembre.
C'est génial, on est sur Canal donc c'est un bon moment. Hein. Je trouve que tout le monde dit vous jouez pendant les fêtes, moi je trouve ça génial quoi. Le lendemain de Noël tu joues un match, tu fais quand t'es jeune, tu fais ta passion, moi je trouve ça génial, je suis très heureux et en plus ça tombe bien, on est un dimanche au Stade des Migirals à 16h, c'est top, il n'y a plus qu'à.
Lucas Vellart avec Fanny Lechevestrier, Perpignan-Castres, c'est à 18h. Teddy Riner reste le sportif préféré des Français selon le top 50 du journal du dimanche qui chaque année dresse la liste des personnalités que les Français mettent en tête de leurs affinités. Un classement toujours dominé par Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau, l'astronaute Thomas Pesquet et la comédienne Marion Cotillard viennent ensuite. Le temps.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
La météo avec Jean-Pierre Hameau de Météo France.
Encore de la pluie cet après-midi sous un ciel bâché entre la région Grand Est et le nord des Alpes en passant par la Bourgogne-Franche-Comté, entre la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France, le Nord, mais aussi des Pays de la Loire au Massif central en passant par la région Centre. Prévoyez un ciel de traîne alternant de courtes éclaircies et des nuages porteurs d'averses. Même légèrement voilés, vous profiterez du soleil dans le sud-est, mais aussi vers la Charente-Maritime, l'Aquitaine et Midi-Pyrénées, sans oublier le Languedoc-Roussillon. Demain, une nouvelle perturbation avec des pluies marquées et un vent assez fort va traverser notre pays du sud-ouest vers le nord-est. On surveillera un net renforcement du vent en soirée la nuit suivante. Le long de la côte atlantique, les rafales seront proches de 90, voire 100 km par heure.
Merci Jean-Pierre Hameau.